Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la merveilleuse série concernant la prière. Nous sommes maintenant à l'étude numéro 28, sauf erreur. Et le thème pour aujourd'hui sera un thème qui va aider plusieurs d'entre vous. Car je veux essayer de vous conseiller afin que vous puissiez obtenir la puissance pour gagner des âmes. Les disciples avaient bien souvent l'occasion d'entendre leur maître prier. Nous lisons dans Saint Luc chapitre 9 verset 18 que un jour Jésus priait à l'écart ayant avec lui ses disciples. Ainsi dans le présent passage, les disciples sont là en silence tandis que Jésus-Christ répond son cœur dans la prière. Et au chapitre 11 verset 1 à 2, il est dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il n'y a donc rien de formaliste dans les prières de Jésus-Christ. Cela va sans dire. Ce n'étaient pas des prières ordinaires. Entendre prier Jésus-Christ, c'était être transporté jusque dans le lieu très saint. Pouvez-vous imaginer les soupirs inexprimables, les larmes même, très souvent, et en même temps que la foi joyeuse et enfantine et la hardiesse avec laquelle le Fils de Dieu s'adressait à son Père. Les disciples s'en émerveillaient et nous pouvons comprendre et comment la soif d'une semblable vie de prière qu'éveillait en eux les prières de leur bien-aimé Seigneur. Je ne sais quels étaient les différents sujets de prière qui occupaient le Sauveur, mais sans nul doute, étant donné le but de son incarnation, chercher et sauver ce qui était perdu, l'amour brûlant qui le conduisait jusqu'en Golgotha devait aussi dicter son intercession pour les pécheurs de son peuple. En écoutant une telle prière ce jour-là, les disciples émus lui demandèrent ensuite « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La prière est un ministère qui exige toute une formation spirituelle. Tout pasteur et conducteur spirituel devrait prendre à cœur d'éduquer les fidèles dans le domaine de la prière selon Dieu. Ainsi, ce disciple demanda tout simplement à Jésus-Christ « Enseigne-nous à prier ». Les chrétiens devraient étudier ce grand sujet de la prière et demander à Dieu de le leur révéler par l'Esprit Saint. Écoutez simplement ceci, que l'école de la prière, c'est sans aucun doute, c'est la prière du Seigneur. Christ donna alors à ses disciples cette prière modèle, connue de tous comme étant l'oraison dominicale. Inutile de discuter sur son titre, mais apprenons plutôt à prier comme Jésus-Christ l'enseigna alors à ses disciples dans Saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Or, cette prière est simple, elle est universelle dans son application. tout chrétien, oh oui, depuis le petit enfant jusqu'au plus profond théologien, peut s'approcher de Dieu en disant « Père ». Ou selon Saint Matthieu chapitre 6, verset 9, « Notre Père qui est aux cieux ». Et c'est avec une certaine révérence que nous devrions prononcer le « Que ton saint nom soit sanctifié ». Et la requête relative à son retour en gloire est la suivante, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez-vous, des milliers de croyants répètent cette prière, et ceci presque inconsciemment, sans même se rendre compte qu'elle a pour but de demander le retour, oh oui, le retour du Seigneur Jésus-Christ, le retour du Messie et son règne ici-bas. Et c'est là pourtant la suprême espérance du chrétien. Et Saint Jean termine son Apocalypse par cet appel ultime. Amen. Oh oui, viens Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Je prends parfois dans des versions anglaises telles que le The Amplified Bible et d'autres, et donc c'est simplement parfois un ou deux mots selon des synonymes précis qui peuvent changer mais qui donnent exactement le même sens au texte, pour que vous n'ayez pas peur que ce soit autre chose. Chers amis, notons encore que cette prière s'applique également à nos besoins quotidiens, oui, aux besoins universels des humains. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, c'est donc notre droit de présenter à Dieu nos besoins matériels. C'est la nécessité de notre pain quotidien, ce qui comprend, par exemple, le travail, le vêtement, et tout le reste, tout cela est donc inclus dans la volonté de Dieu pour ses enfants. Les chrétiens n'obtiennent pas toujours de Dieu ce qu'ils désirent, c'est vrai, mais ils devraient certainement obtenir tout ce qui leur est vraiment, mais vraiment nécessaire. Je crois que tout comme un enfant s'adresse librement à ses parents quand il a faim, ainsi le croyant devrait pouvoir attendre de Dieu sa nourriture, tout ce qui constitue les nécessités de la vie terrestre. Dieu est le créateur de notre globe et il nous est dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, c'est-à-dire du Père des Lumières, nous est-il dit dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Oui, la main bénie qui a multiplié le pain pour rassasier une multitude qui était affamée est toujours puissante pour satisfaire encore aujourd'hui les besoins des saints. Dieu n'est-il pas notre Père céleste? Les cieux et la terre lui appartiennent et il veut encore à présent vêtir ses enfants comme il revêt les fleurs des champs, les nourrir comme il nourrit les oiseaux du ciel. Si cette prière modèle nous a été donnée par notre Sauveur, ce n'est pas pour que nous la répétions textuellement comme des perroquets, mais non, mais c'est pour que nous prions selon l'Esprit Saint de cette prière. Elle nous encourage à demander pour aujourd'hui le pain de ce jour, sachant que demain, nous aurons à demander celui de demain. Et pardonne-nous nos offenses. Ah, chers amis, tout chrétien doit prier cette prière chaque jour. Nous sommes sauvés, certes, Mais n'oublions pas que nous sommes des pécheurs graciés, et comment ? Et que, comme tels, nous avons besoin d'être chaque jour affranchis de tout ce qui peut entraver notre marche. En confessant nos péchés, nous sommes pardonnés et purifiés selon la promesse si positive de la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Et quand nous avons recours à Dieu pour cette purification quotidienne de son cœur, n'oublions pas de pardonner nous aussi, et ceci à tous ceux de notre entourage. Car, voyez-vous, si je ne pardonne pas, comment voulez-vous que Dieu me pardonne? Et je pense que vous pouvez comprendre cela. Si un ver de terre, n'ayez pas peur de parfois dire que vous êtes quand même inférieur à Dieu, en tout cas moi. Alors si je ne peux pas pardonner à quelqu'un autour de moi, que ce soit même quelqu'un que peut-être j'ai des ressentiments contre, comment voulez-vous que Dieu, qui est des millions de fois au-dessus de moi, qui est trois fois saint, puisse me pardonner? C'est une question que je me suis souvent posée. Voyez-vous, je sais bien que tout pécheur qui se tourne vers Christ dans un acte de foi reçoit instantanément le pardon de tous ses péchés, ceux du passé, ça c'est merveilleux, ceux du présent et même ceux de l'avenir, puisque tous, sans exception, ont été imputés. Tout cela a été imputé au Sauveur sur la croix, et qu'il en a payé la dette effroyable, une dette très lourde, qu'il est mort pour moi, qu'il a versé son sang à la croix pour me sauver. Quiconque se confie à Christ, qui se confie vraiment en Christ, il obtient et il a la vie éternelle. Il ne viendra point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie, selon Saint Jean chapitre 5, verset 24. Mais dans un sens secondaire, cependant, le chrétien a encore toujours besoin du pardon divin. En tant qu'enfant de Dieu, s'il m'arrive de tomber dans le péché, c'est une offense envers mon Père céleste, et mes péchés attristent carrément le Saint-Esprit, entravent la communion spirituelle et nuisent, oh oui, ils nuisent à ma joie en Christ, comme à mon témoignage parmi les hommes. Et c'est pourquoi tout chrétien a besoin journellement de la purification et du pardon divin. Et la preuve certaine de notre sincérité, c'est en confessant nos péchés et en nous repentant de toute offense. Ça, c'est notre empressement à pardonner les fautes de nos frères et sœurs envers nous. Et cette requête est comme un écho de la béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Saint Matthieu chapitre 5 verset 7. Ne manquez donc pas d'apprendre le secret de cette prière victorieuse qui, en pardonnant aux autres, reçoit chaque jour le pardon divin. Ensuite, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. En effet, tout enfant de Dieu a besoin chaque jour de sa direction, de la direction divine, afin d'être gardé de la tentation. Le roi David s'écrie avec joie au psaume 23, Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son saint nom. Et nous devons demander sans cesse à notre Dieu de nous préserver des assauts du malin. La prière est un puissant bouclier à l'heure de la tentation. Invoquons donc chaque jour notre Dieu pour qu'il nous accorde notre pain quotidien, le pardon, la direction, la protection contre les attaques de Satan et du péché. Telle est l'école élémentaire de la prière, celle que tout croyant devrait apprendre à prier, sinon dans les termes textuels, tout au moins selon l'Esprit Saint qui l'inspire. Notons toutefois que les requêtes exprimées ici sont toutes personnelles. Chaque enfant de Dieu est exhorté à réclamer de son Père Céleste son propre pain quotidien, le pardon, la protection, etc., dont il a personnellement besoin. Ce sont là les premiers pas, en quelque sorte. C'est la classe enfantine dans l'école de la prière. N'oublions jamais que Dieu tient en réserve pour nous un enseignement plus avancé dans ce domaine vital de la prière. Il n'est pas sans importance de noter que cette prière du Seigneur, telle qu'elle nous est rapportée dans l'évangile de Saint Luc, ne comporte aucun amen en conclusion. La raison en est que cette leçon n'est pas terminée du tout. Les principes élémentaires viennent d'être énoncés et le Seigneur Jésus-Christ poursuit maintenant son enseignement, introduisant ses auditeurs dans le domaine merveilleux de la prière d'intercession, de la prière pour les autres. Oui, il veut leur inculquer ainsi son propre fardeau, son ardente supplication en faveur des pécheurs qu'il veut sauver. Dans Saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 8, il continue la leçon sur la prière en disant ceci. « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami », prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et il n'a rien, mais absolument rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Oh, ne m'importune pas, car la porte est déjà fermée et mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux donc pas me lever pour te donner des pain maintenant. » Eh bien, moi je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner, et ceci parce que son ami, eh bien, malgré tout cela, malgré l'opportunité, malgré que on est en train de le chicaner au milieu de la nuit, malgré tout cela, il se lèvera tout simplement à cause de son importunité. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ça, c'est une réalité. Bienheureux donc l'homme qui possède un ami, un vrai. Mais nous avons ici en figure un homme qui en a deux. Il y a l'ami tout proche, et qui est dans l'abondance, et puis il y a celui qui arrive de voyage, qui est las et affamé, et ceci pour lui demander l'hospitalité. Or, tout chrétien possède également ses deux amis. L'un de ses amis, c'est bien entendu Dieu, notre Père Céleste lui-même. C'est celui qui dispose de toute la plénitude de ses richesses en faveur des pécheurs. Le second Eh bien, le second, c'est le pécheur dans son indigence. Car tout enfant de Dieu doit être dans ce monde un médiateur entre le Seigneur et l'humanité perdue. Et c'est nous, chers frères et sœurs, qui devons être le canal par lequel Dieu veut faire parvenir le pain de vie aux pécheurs. Jésus-Christ dit à ses disciples, en présence de la multitude affamée, « Donnez-leur vous-même, oui, donnez-leur vous-même, maintenant, à manger. » Saint Matthieu, chapitre 14, verset 16. Et quand il leur fournit ce pain qu'il avait miraculeusement multiplié, ils le portèrent à leur tour à chacun de leurs convives. Ainsi le Seigneur enseigne à ses enfants à prier de la même manière que l'homme en détresse qui a un si urgent besoin de pain et qui s'adresse pour cela à son ami, plaidant et commandant avec lui jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire. Certains chrétiens commettent la grave erreur de ne pas se séparer des pécheurs. Ils ne comprennent pas leur appel en tant que peuple particulier. Ils ressemblent plutôt à Lot dans Sodome, appelant les sodomites comme si c'était ses frères, ce qui n'est quand même pas tout à fait correct. Il perdit ainsi son témoignage de sorte que ses propres genres, dans sa propre famille, ne l'ont plus pris au sérieux quand enfin il voulait les avertir du grand danger. Genèse chapitre 19, verset 14, je crois que ça vaut la peine de revoir ce texte. Certains chrétiens d'entre nous, nous commettons parfois des graves erreurs de ne pas comprendre qu'on devrait se séparer des pécheurs. Se séparer d'eux, ça ne veut pas dire de les mépriser, mais pas du tout. Et ils ne comprennent pas non plus leur appel en tant que peuple particulier. Ils ressemblent donc, en quelque sorte, à Lot qui se trouve dans Sodome, appelant les sodomites, ses frères, ses sœurs, toutes ces lesbiennes. Eh bien, ce cher Lot a perdu ainsi son témoignage de sorte que ses propres genres ne le prirent plus au sérieux quand enfin il voulait les avertir. Genèse 19, verset 14. Bien que vivant au milieu du monde, eh bien nous devons avoir aucun compromis avec le présent siècle. Nous gardons vraiment d'imiter en quoi que ce soit ces modes et ces coutumes. Nous ne devons pas les imiter. Oui, voyez-vous, imiter tous ceux qui font des choses assez étranges aujourd'hui, ce ne serait pas la bonne chose. Les sauvés que nous sommes doivent être totalement différents des autres. S'ils veulent que les pécheurs viennent à eux pour recevoir de leurs mains le pain de vie. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, était bien séparé des pécheurs, et comment ? Vivant dans une sainteté immaculée, sans compromis aucun avec ce monde souillé. Je répète, le Seigneur Jésus-Christ, lui, était séparé des pécheurs, vivant dans une sainteté absolument immaculée, et ceci sans compromis aucun avec ce monde souillé. Mais son amour pour les pécheurs faisait la stupéfaction du monde religieux de son temps. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Oh là là, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Saint Luc chapitre 15. Ça ne veut pas dire qu'ils vivaient selon leur vie, vous avez bien compris. Oui, chers amis, Jésus-Christ aimait les pécheurs. Et pour leur montrer qu'il ne les méprisait pas, il mangeait même à leur table, il leur prêchait la sainte parole et il se plaisait à leur accorder son pardon. C'est merveilleux cela. Le fait est que Dieu nous a placés, vous a placés comme intermédiaires entre deux mondes, comme le lien entre Dieu et les hommes. Si Christ, cela va sans dire, est l'unique médiateur et l'unique sacrifice expiatoire pour le péché, l'Église, elle est appelée à prendre part à ce ministère, à cette médiation dans l'union avec lui. Nous devons être des intercesseurs à son image. Je me demande, chers auditeurs, si vous en êtes encore à cette classe élémentaire dans la vie de prière, si vous n'avez pas encore appris à prier pour les autres, à prendre part au fardeau de Christ pour les pécheurs et à rechercher et à obtenir pour eux le pain de vie et à le leur dispenser, et ceci avec sa puissance, avec la puissance du Seigneur et de sa bénédiction. Vous savez très bien comment, après avoir détruit l'idole maudite et convaincu Israël de son péché, le grand Moïse remonta sur la montagne. Pourquoi ? Mais pour intercéder en leur faveur. Dieu menaçait de détruire la nation tout entière et de faire de lui, de Moïse, un peuple nouveau. Mais Moïse répondit, « Ah, ce peuple, oui c'est vrai, il a commis un grand péché. Ils se sont fait même un dieu d'or, ce qui est horrible, une abomination. » Mais pardonne maintenant, s'il te plaît, leur péché. Sinon, alors, efface-moi carrément de ton livre que tu as écrit. Exode chapitre 32, versets 31 et 32. Donc, la prière d'intercession de Moïse jaillissait d'un cœur brûlant, vraiment brûlant de compassion, et cela a prévalu avec Dieu. Et il n'a pas détruit le peuple, bien qu'il a eu ce peuple commis quand même une très grande transgression. Cela n'est pas la manière élémentaire enseignée par le Seigneur Jésus-Christ dans notre Père. Ce n'est pas la prière du jardin d'enfant, mais c'est celle d'un maître. Oui, c'est la classe supérieure. La classe supérieure dans l'école de la prière. Donc, le Seigneur veut nous apprendre à prier comme pria carrément la reine Esther, souvenez-vous, pour la délivrance de son peuple lors du cruel complot de Haman. Esther chapitre 7, versets 1 à 4. Dieu nous donne, et il nous donne encore, l'exemple du prophète Daniel et de sa merveilleuse prière d'intercession au 9e chapitre de son livre, plaidant carrément avec son Dieu pour toute la nation d'Israël. Daniel chapitre 10, verset 3. Christ Jésus nous invite à entrer, nous aussi, dans ce profond travail d'enfantement qu'était la prière de son serviteur, l'apôtre Paul, quand il dit, dans Romains chapitre 9, versets 1 à 3, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, car ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais tellement moi-même être anathème et carrément séparé de Christ pour mes frères et sœurs, pour mes parents selon la chair. Romains chapitre 9, versets 1 à 3. Oui, la plupart d'entre nous, nous prions pour nous-mêmes, c'est vrai, et nous ne pourrions dire, comme le grand apôtre dans Romains chapitre 10, verset 1, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur, c'est que ma prière à Dieu pour vous tous, c'est que vous soyez tous sauvés. » Chers amis, nous avons la confession qui doit précéder toujours la prière importune. En commençant, nous avons demandé au Seigneur Jésus-Christ de nous apprendre à prier, d'accord ? Et nous devons donc prier la prière qu'il place lui-même dans notre bouche. Nous répétons souvent la prière modèle, notre Père. Mais pourquoi pas aussi celle qu'il nous enseigne aujourd'hui par cette parabole de Saint-Luc chapitre 11 ? Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Cette prière, c'est une requête très précise, mais elle est aussi, ne l'oublions jamais, une prière d'humiliation. Comme les chrétiens auraient besoin, croyez-moi, de se l'approprier encore aujourd'hui. Et comment ? Jésus nous enseigne par cette parabole à reconnaître notre propre responsabilité. Nous devons confesser à Dieu que certaines âmes ont été placées sur notre route et certains amis auxquels nous avons et nous devons surtout le pain de vie. Je répète, nous devons confesser à Dieu que certaines âmes ont été placées sur notre route et que certains amis, entre guillemets, auxquels nous devons le pain de vie, si vous avez, par exemple, un mari inconverti, eh bien, ma chère sœur, vous qui écoutez maintenant, eh bien, si vous écoutez ces paroles, et si vous ne faites pas votre part, si vous n'avez pas la puissance pour le gagner à Christ, son cas pourrait être à peu près désespéré. Mais tout au long de ces études, vous allez apprendre comment vous pouvez obtenir la puissance du Saint-Esprit. Je connais des épouses qui ont vécu côte à côte, oui, on dit côte à côte, avec leur mari pendant plus de 30 ans et qui ne les ont jamais gagnés à Christ. Il y a des frères et sœurs qui ont joué et travaillé ensemble, qui ont été des inséparables tout le long de leur existence. Et cependant, le frère croyant n'a jamais pu attirer à Christ son frère ou sa sœur inconverti. Il y a des pères à qui Dieu a confié de chers enfants qui leur sont tendrement attachés, qui les imitent volontiers dans beaucoup de choses et qui pourtant n'ont pas été attirés au Sauveur par le témoignage de leur père, car ces pères ne leur ont jamais, une seule fois, distribué le pain de vie. Oui, chers amis, je vous le déclare, Nous ne pouvons nous dégager de nos responsabilités à l'égard de ces liens du sang ou de l'amitié. Si vous avez des êtres chers vivant à vos côtés sans Christ, eh bien c'est à vous tout d'abord que Dieu a confié la tâche de les attirer à lui. Le mauvais riche lui-même, du fond de l'enfer, il réalisait sa responsabilité envers ses cinq frères impies, non sauvés, païens total, et il connaissait le danger qui les menaçait de le suivre un jour. Dans ce terrible lieu de tourment, il avait donc le cœur de les faire avertir. Il aurait tellement voulu les avertir par un habitant du ciel, si cela aurait été possible. Lisez ou notez Saint-Luc chapitre 16, versets 27 à 30. Oui, combien de chrétiens désirent ardemment gagner des âmes, mais n'y parviennent jamais. Vous priez bien peut-être pour le salut de ces âmes et parfois, tout timidement, vous essayez de les inviter à une réunion, mais vous ne les amenez pourtant pas à l'expérience personnelle, du salut. La raison en est tout simplement qu'il vous manque la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, vous n'avez ni la hardiesse du témoignage, ni le zèle, ni le fardeau des âmes, ni le saint travail d'enfantement que cela nécessite, ni même les paroles de feu, et encore moins les larmes de compassion, ni, on peut dire, l'exemple d'une vie dont Dieu peut se servir pour les attirer à Christ. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous devez faire vôtre cette prière de confession de l'ami en détresse. Un ami est arrivé et je n'ai absolument rien à lui offrir. Non, vous ne possédez pas ce pain de vie pour les pécheurs, lesquels Dieu a voulu vous confier. Qu'il veut encore aujourd'hui vous donner, car il vous aime, si seulement vous êtes prêt à en payer le prix. That's the question. C'est là le problème et la question. Chers amis, nous allons voir la prière victorieuse qui obtient le pain pour les pécheurs. Revoyons attentivement ce passage de Saint-Luc, chapitre 11, versets 5 à 8, par lequel Jésus-Christ veut nous apprendre à prier tout simplement. Et remarquez, remarquons maintenant, chers amis, que c'est à minuit. Rappelez-vous que cet homme va trouver son ami pour lui emprunter 3 pains, ce qui indique une urgence tout à fait exceptionnelle. Bienheureux le chrétien qui est prêt à bouleverser la routine de sa vie quotidienne en faveur de la prière et de la cure d'âme. J'ose affirmer que Dieu ne donnera jamais ce revêtement de puissance, cette effusion du Saint-Esprit pour le salut des âmes, à moins qu'on ne soit prêt, vraiment prêt, à prendre des mesures extraordinaires s'il le faut. L'ami en question est arrivé à minuit. Il a heurté à la porte pour réveiller son voisin et lui demander du pain. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous sommes venus au Seigneur intercédant ardemment pour le salut de tel ou tel de nos bien-aimés. Nous avons demandé à Dieu de faire de nous des gagneurs d'âmes, alléluia, qui soyons bien certains qu'une telle prière ne pouvait que lui être agréable sans nul doute. Cependant, évidemment, pour parler très franc, la plupart de ceux qui ont formulé une telle prière n'en ont pas vu l'exaucement. Vous avez réclamé la puissance, mais vous ne l'avez pas reçue. Vous avez supplié Dieu de vous aider à gagner telle ou telle âme de votre entourage, mais Dieu ne vous a pas donné ce pain pour les pécheurs. Or, Christ nous enseigne ici à prier le Père afin d'obtenir le pain de vie pour les pécheurs. Ne devons-nous donc pas en attendre l'exaucement? Et pourtant, tous ceux qui réclament ce pain le reçoivent-ils tous? C'est pas sûr. Relisons ensemble ce que dit le Seigneur Jésus-Christ au sujet de cette prière d'importunité. De l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, arrête de m'assommer, de m'ennuyer, car la porte est déjà fermée. Ou si mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux donc pas me lever pour te donner des pains. Surtout, je ne veux pas, hein, aurait-il dû dire. Eh bien, voyez-vous, ainsi le croyant qui demande du pain pour les pécheurs semble devoir s'attendre tout d'abord à une rebuffade, à un refus catégorique. Comme cela peut nous paraître étrange. Or, il semblerait cependant que Dieu devrait accorder volontiers la puissance de gagner des âmes à tous ceux, absolument à tous, qui la lui demandent, donc du pain spirituel, à tous ceux qui ont à cœur de le distribuer aux autres. Cependant, selon notre parabole, le pain demandé ne semble pas être accordé d'emblée, automatiquement. L'ami répond « Ne m'importune pas, je ne peux à cet instant me lever étant donné. » Et c'est possible que Dieu réponde ainsi à ses enfants qui s'attendent à lui. Je vous pose la question. Quel est donc l'enseignement que Jésus-Christ veut nous donner à travers ce merveilleux symbole? Peut-être qu'une simple illustration pourrait nous aider à comprendre. Si mon petit garçon me demande la lourde hache dont je me sers pour abattre des arbres, ou bien s'il convoite de prendre le volant de ma voiture, vais-je lui confier pareille chose entre les mains tout simplement parce qu'il me les demande? Est-ce que je veux lui donner un rasoir qui coupe, comme on dit, comme un rasoir, pour s'amuser? De même, il serait totalement insensé d'attendre que Dieu livre entre les mains d'un chrétien léger, superficiel et versatile, de lui accorder la dynamite du ciel, alors qu'il ignore complètement le travail d'enfantement de Christ pour les âmes et qu'il ne s'est jamais profondément repenti de son propre péché et de son impuissance. Comment voulez-vous que Dieu puisse accorder à un tel homme ou une telle femme d'être rempli du Saint-Esprit automatiquement, comme ça, et en faire un gagneur d'âme, un homme capable de vaincre Satan temps. Ça, c'est important, qu'il soit capable de vaincre l'ennemi, qu'il soit capable de transformer des vies par la puissance infinie qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Aussi, je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas, hein, quand même, il ne se lèverait pas. Et ceci pour lui donner tout ce qu'il demande, parce que c'est son ami. Tout de même, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Soulignez, oui, soulignez, chers amis, le mot le plus important de ce verset 8 de notre texte. C'est le mot « importunité ». Dieu ne donne pas à ses enfants la puissance du Saint-Esprit simplement parce qu'ils sont les amis du Christ. Vous savez que vous êtes sauvés et que cela vous donne le droit de dire « notre Père » et de réclamer de ce Père votre pain quotidien, le pardon même de vos péchés, la délivrance de la tentation, etc., etc. Mais nous avons ici une leçon d'intercession qui va beaucoup plus loin que tout cela. Et Jésus-Christ nous dit que l'ami sollicité ne se lèvera pas pour lui donner du pain simplement parce qu'il est son ami. L'amitié ne suffit pas dans un cas semblable, mais à cause de son importunité, de l'intensité, de la persévérance, de la supplication, là, et oui, là, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Alléluia. Il est certain que Dieu veut nous faire apprendre à fond cette leçon, savoir qu'il y a des bénédictions que le chrétien ne recevra pas sans une ardente supplication, une attente persévérante en Dieu. En un mot, sans la prière d'importunité. Ceux qui veulent vraiment posséder cette puissance divine pour le salut des âmes, ce pain de vie pour les pécheurs, doivent apprendre le secret de la prière victorieuse de la foi. C'est simple, mais c'est sérieux, et c'est cela qu'il faut comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ enseigne très clairement que la prière d'importunité est le moyen d'obtenir de Dieu la puissance pour le service, pour le servir. Avant la Pentecôte, il nous est dit que 120 disciples se sont réunis dans la chambre haute et que tous, d'un commun accord, ont persévéré dans la prière. Actes chapitre 1, verset 14. Vous avez compris, ils ont persévéré. Hein? Il y a eu donc un temps de prière d'intercession, de supplication et d'ardente attente en Dieu avant que la puissance du Saint-Esprit soit vraiment déversée sur tous à la Pentecôte. Après sa conversion sur la route de Damas, l'apôtre Paul, il a passé trois jours entiers dans le jeûne et la prière. Et quand l'ange du Seigneur est venu avertir Ananias à son sujet, il dit « car il prie », acte 9, verset 9 à 11, « car il prie ». Pourquoi donc ces trois jours de prière et d'attente pour l'apôtre nouveau-né? Évidemment pour qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qu'il soit mis en possession du pain de vie pour les pécheurs. « Saul, mon frère, dit Ananias, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 17 du chapitre 9 d'Actes des Apôtres. Et on peut dire Saint Paul a obtenu le salut dès l'instant où il a capitulé devant le Christ en gloire qui venait de lui apparaître. Mais, écoutez bien la suite, il a obtenu la puissance de prêcher aux autres que après cette période de jeûne et de profond brisement dans la prière. Pour lui aussi, cela a été le chemin de l'importunité qui conduisit au service fécond pour les âmes. L'évangéliste bien connu, Moody, le docteur Moody, il a prié pendant 2 années entières, suppliant Dieu de déverser sur lui la puissance du Saint-Esprit après que 2 femmes de Dieu, 2 sœurs et serviteurs, on peut dire, de Dieu, ont attiré son attention sur cette merveilleuse bénédiction qui est absolument indispensable. Et le cas, dans le cas de Corneille ou celui de Charles Finet, cette période de recherche et d'attente devait précéder l'expérience du salut. Il n'est pas automatique, simplement, de dire « je veux ceci et cela » et que d'un claquement de doigts, Dieu doit nous donner tout ce que nous demandons, parfois avec des sentiments qui sont égoïstes. Il est certain que la leçon qui se dégage de ce texte sur la prière d'intercession, c'est que l'importunité et le secret de la puissance spirituelle pour le service est donc indispensable et Dieu ne l'accorde pas à tous automatiquement du fait qu'ils sont simplement ses amis, mais à tous ceux, à ceux-là seuls, qui ont appris à s'attendre à lui jusqu'à ce qu'il soit, on peut dire, rendu apte. Nous devons arriver à être apte à recevoir cette puissance-là. Il serait donc insensé d'attendre une pareille bénédiction, un revêtement aussi merveilleux, sans qu'il y ait de notre part à nous une sincère confession de nos péchés, une mise à l'épreuve de nos mobiles cachés, une prière ardente et avec larmes, accompagnée de la transformation radicale de notre vie, de la transformation radicale de notre vie, plus vite dit que fait, tandis que nous, nous attendons à notre Dieu. Le fait est que bien peu de chrétiens sont en mesure d'apporter le pain de vie aux pécheurs parce qu'ils ne sont pas prêts à en payer le prix. Ils ne sont pas prêts à frapper avec insistance à la porte de leur ami céleste jusqu'à ce qu'il leur ouvre et leur accorde tout ce dont ils ont besoin. Ô mes chers amis, que Dieu nous apprenne à prier, oui, à prier ces prières d'importunité qui ne pourront être rejetées et par lesquelles nous obtiendrons le pain de vie pour le pécheur perdu. Chers amis, quand Dieu semble dire non, ce n'est pas toujours un refus absolument définitif. Voilà une pensée encourageante, non ? Et ceci pour tout enfant de Dieu qui désire ardemment gagner des âmes et qui n'y est encore jamais parvenu. Dieu a placé quelqu'un sur votre route pour que vous puissiez l'attirer à Christ. Vous avez prié à ce sujet et il semble qu'il vous ait répondu non. Vous n'avez jamais reçu cette puissance d'en haut que vous attendiez et vous n'avez pu porter donc le fruit tant désiré. Mais tout n'est pas perdu pour cela. Vous pouvez encore parvenir à la victoire totale. Dieu n'a pas encore prononcé un non définitif à votre supplication. Ne le croyez pas. Son but était seulement de vous pousser, oui, de vous pousser à prier davantage, avec plus de détermination, et à vous attendre à lui, sans jamais vous décourager. Dieu a tellement à cœur d'entraîner ses enfants à la prière victorieuse, il est tout disposé à leur accorder le pain qu'ils demandent avec persévérance et dans la foi, tout comme l'homme de notre parabole se leva et en donna à son ami à cause de son importunité. Dans Saint Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, nous avons un exemple frappant de ce fait que le nom de Dieu n'est pas toujours irrémédiable. Une femme cananéenne était, souvenez-vous, venue à Jésus-Christ en criant « Oh, Rabbi, aie pitié de moi, fils de David, car ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais Jésus-Christ ne lui répondit pas un seul mot. Mais après un moment, il lui dit « Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette femme, chers amis, croyez-vous qu'elle a été découragée? Pas du tout. A-t-elle cessé de l'implorer? Pas le moins du monde. Elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi ». Une fois de plus, Jésus semble vouloir la décourager en disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Admirons ensemble la merveilleuse foi de cette pauvre païenne quand elle s'écrie « Oui, Seigneur, c'est vrai, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle voulait bien être placée au rang des chiens, pourquoi pas, pourvu qu'elle soit le petit chien du Seigneur. » Comme Jésus-Christ s'est réjoui de cette réponse, croyez-moi. Aussi, il a dit « Femme, ta foi est très grande. Aussi qu'il te soit fait comme tu veux. » Et rentrant chez elle, cette femme a trouvé son enfant totalement délivré à l'heure même. Bien souvent, les prédicateurs s'emparent de la lettre au dépens de l'esprit des paroles divines. Ainsi, les disciples ont pu avoir l'impression que Jésus-Christ ne se souciait nullement des païens, qu'ils n'étaient pour lui que des chiens et qu'il allait renvoyer cette femme à vide pour s'en débarrasser. Mais la femme, elle, ne s'arrêta pas à la lettre de ses réponses troublantes. Elle crut envers et contre tout à l'amour de ce Messie qui était venu non seulement pour les Juifs, mais encore aussi pour sauver les païens de son espèce. Bien qu'il semblât ne point se soucier de sa détresse, elle ne pouvait douter de son amour pour elle. Oui, pour son enfant qui était terriblement éprouvé, malgré la contradiction apparente de ses paroles. Donc, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je crois qu'il serait plus exact de traduire par persévérer. Je répète, persévérer à demander. Persévérer toujours à demander, à chercher, à frapper. Le verbe grec exprimant cette idée d'une action continue, d'une action qui se prolonge jusqu'à son aboutissement. Dieu nous donne ainsi une assurance bénie que si nous persistons à demander, à chercher, à frapper, nous obtiendrons sans nul doute l'exaucement de notre prière, le pain tant désiré pour chaque pécheur qu'il placera sur notre chemin. Oui, chers amis, ne craignez pas de demander Dieu de nous donner. Et Dieu, croyez-vous, croyez simplement, il ne donnera jamais des choses mauvaises. Et c'est un fait désolant que certains fanatiques ont pu dérober la bénédiction découlant des promesses divines pour les chrétiens. Il y a des personnes qui se sont égarées à tel point en ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit que des multitudes de croyants en viennent à craindre carrément de réclamer sa puissance et sa présence en eux. Bien des prédicateurs sincères évitent de toucher à certains sujets dans les Saintes Écritures de peur d'entraîner des incompréhensions, une recherche maladive du don des langues, par exemple, une fausse prétention à l'infaillibilité, etc., etc. Mais Christ connaissait à l'avance tous ces doutes qui surgiraient dans le cœur des siens. Ne crains pas, cher ami, de demander à Dieu du pain pour les pécheurs. Il ne te donnera pas un esprit séducteur ou une contrefaçon de ses dons et de son témoignage. Chers amis, vous qui aimez vos enfants, donneriez-vous vraiment à votre fils une pierre au lieu de pain ? Et d'autant plus si par compassion pour un autre qui vous aime également, il vous demande par exemple du pain afin de lui venir en aide. Faible et ignorant comme vous l'êtes, vous ne voudriez donc jamais tromper la confiance de votre petit enfant qui vient tout simplement à vous et librement pour vous exposer ses besoins. C'est ainsi que Jésus-Christ nous rappelle que méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, et non pas qui le lui demandent pour des besoins courbes, pour des besoins égoïste. Non, non. Nous pouvons donc, chers amis, en toute sécurité, nous attendre à notre Dieu. Ne vous laissez pas décourager par tous ceux qui considèrent cette attente comme superflue. Mais demandez et vous recevrez cette puissance bénie du Saint-Esprit. Aussi maintenant, vous serez équipés mieux que personne d'autre, pour répandre, comme l'a fait ce pasteur, qui a vraiment su répondre merveilleusement à un homme qui était, mais totalement, oui, qui était totalement désespéré. Et il a donc demandé, dans quel but êtes-vous venu me voir ? Et cet homme a répondu : j'aimerais être sauvé. Pouvez-vous m'aider ? Oh, je le peux, oui, grâce à Dieu. Aussi, écoutez ce verset-là. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Cela, est-ce vraiment vrai ? Vous êtes-vous égaré ? Avez-vous suivi votre propre voie ? Oh oui, je l'ai fait bien des fois. Alors, ayant péché, vous êtes perdu, n'est-ce pas ? Vous comprenez cela ? Oui, oui. Mais comment puis-je être sauvé ? Alors écoutez encore la fin du verset. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Qu'est-ce que Dieu a fait de votre péché ? Il l'a mis sur lui, oui, sur Jésus-Christ. Alors où est-il maintenant ? Il est sur vous ? Est-il sur vous, ce péché ? Où est-il maintenant sur Jésus-Christ ? Eh bien, il est maintenant sur Jésus-Christ. Et tout votre péché, chaque partie de votre péché, absolument tout. Oui, quel bénéfice est-ce maintenant que vous pouvez retirer de tout cela ? Et l'homme a demandé, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Nous voulons maintenant ouvrir le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, et ici, lisez ce verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son saint nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Jean chapitre 1 verset 12. Comment devenez-vous l'enfant de Dieu ? C'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que croire ? C'est le recevoir. Et le verset nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui arrive quand vous recevez Jésus-Christ ? Je deviens enfant de Dieu. Voulez-vous le recevoir maintenant ? Eh bien, je ne sais pas comment faire. Alors écoutez encore ce verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3, verset 20. Cela veut dire que Jésus-Christ est vraiment venu à la porte de votre cœur et qu'il frappe et qu'il attend pour pouvoir entrer. Dites-moi, avez-vous entendu sa voix ? Oui, je l'ai entendu. Et voulez-vous lui ouvrir la porte ? Oui, je le veux. Alors dites-lui maintenant, ô Sauveur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur, viens, entre dans mon cœur. Est-il entré ? Je n'en suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole ? J'entrerai. Est-il fidèle à sa parole ? Tiendra-t-il ses promesses ? Mais oui, croyez-moi, il le fera. Avez-vous ouvert la porte ? Oui, je l'ai fait. Alors, où est Jésus-Christ maintenant ? Eh bien, il est maintenant dans mon cœur. Oh oui, je le comprends maintenant. Dieu soit loué. Je suis sauvé, sauvé. J'ai ouvert la porte de mon cœur et il est entré. Oui, grâce à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes ? Oh, je suis devenu son enfant, car je l'ai reçu. Et combien c'est merveilleux ! Mais qu'en est-il de votre fardeau maintenant ? Mon fardeau ? Mais il a totalement disparu. Je l'avais complètement oublié. Oui, vos péchés, ils ont aussi disparu. ils doivent l'être. Et ce que je n'ai pas lu, que l'Éternel a fait retomber sur lui toute l'iniquité de nous tous, alors ils ne sont plus sur vous. Non, le fardeau du péché a complètement disparu. Oh oui, je suis tellement heureux maintenant, et permettez-moi d'aller le raconter à mes amis. Juste une minute, s'il vous plaît, avant que vous partez. Par exemple, supposons que Satan venait demain et essayerait de vous persuader que Christ ne vous a pas reçu après tout. Oh, je n'ai jamais pensé à cela. Qu'est-ce que je ferais? Eh bien, vous avez besoin d'une promesse sur laquelle vous pouvez vous tenir. Tenez ici, écoutez encore ce verset. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Saint Jean chapitre 6, verset 37. Êtes-vous venu à lui? Oui, je suis venu à lui. Est-ce que Jésus-Christ vous a mis dehors? Oh non, certainement pas. Comment le savez-vous? Je le sais parce qu'il l'a dit et je crois ce qu'il l'a dit. Alors, qu'a-t-il fait? Il doit m'avoir mis dedans. Oui, Dieu soit béni. Et vous direz simplement à Satan demain que c'est merveilleux, car je suis content d'être venu à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu n'as plus rien à faire avec moi. Et si vous priez jour après jour, si vous lisez votre Bible et confessez Christ publiquement, vous serez heureux tous les jours de votre vie. C'est justement ce que je désire faire. Oh oui. Et que Dieu me garde fidèlement. Un dernier mot encore. Trouvez quelque chose à faire. Oui, soyez occupés, occupés au service du Seigneur. Car souvenez-vous, Satan trouve toujours du mal à faire pour les mains qui sont oisives, qui sont paresseuses. Eh bien oui, je le veux. Alors au revoir. Et que Dieu vous bénisse de m'avoir conduit à Jésus-Christ. Mon ami, c'est ce que j'ai expliqué. Ai-je vraiment expliqué les choses clairement et simplement? Alors pourquoi ne feriez-vous pas, vous tous, qui écoutez le pas que j'ai indiqué, pour que vous aussi soyez sauvés? Faites-le et faites-le maintenant. Chers amis, je voudrais, avant que nous prions ensemble, si on a encore le temps, c'est pas sûr, et sinon, vous pourrez prier vous-même, simplement dans votre cœur. Écoutez ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Ce n'est pas aux vertueux seulement que le Seigneur a promis son secours. Sa puissance miraculeuse s'exerce, croyez-moi, aussi bien en faveur du pécheur qui vient simplement à lui tel qu'il est. Je répète, sa puissance miraculeuse s'exerce aussi bien en faveur du pécheur qui vient à lui, à Christ, tel qu'il est. Dieu accorde donc cette aide temporelle aussi bien que spirituel, non pas tant pour récompenser le bien que pour tenir la promesse qu'il a faite à tous ceux qui mettraient en lui leur confiance. Lorsque une âme s'adresse au Seigneur, il met aussitôt en œuvre tout ce qui peut assurer l'aide implorée. Mais si l'on refuse de faire sa part, alors qu'on a compris ses intentions et son but, comment pourrait-il intervenir et effacer tout n'est-ce pas, au niveau de la santé physique. Il veut intervenir, croyez-moi, maintenant, pas seulement pour effacer quelque chose, mais il veut intervenir efficacement à tout niveau, au niveau de votre santé physique, comme aussi à celui de la santé spirituelle, ou des choses temporelles elles-mêmes. Donc, maintenant, vous pouvez prier tout simplement ceci. Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu et j'ai reçu l'enseignement précis. Et je sais maintenant que je peux prier, prier avec assurance et obtenir ce que mon cœur demande, obtenir tout ce qu'il faut du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, pour que je puisse d'une façon efficace à l'avenir te servir, Seigneur. Je vais donc continuer avec assurance et avec un cœur sincère te demander les arts et la plénitude du Saint-Esprit pour mieux te servir. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et à bientôt à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, très chers amis.